Ainsi vous êtes venu. Et depuis des décennies, maintenant je peux le dire, de service pastoral, d'annonce de l'évangile et de préparation des cultes, c'est pour moi à chaque fois, un grand sujet d'étonnement, d'émotion et de reconnaissance. Vous êtes venu. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette présence ce matin? Est-ce le désir de rencontrer Dieu? D'avancer dans la foi? Est-ce le désir de retrouver les vieux et les nouveaux amis? Est-ce par habitude? Ou par tradition familiale? Est-ce l'espoir secret que Dieu vous bénira un petit peu plus si vous venez au culte que si vous restez au lit? Est-ce pour la musique et le chant? Et pourquoi pas pour la prédication du jour? Ou bien alors pour ceux qui arrivent très en retard pour la bénédiction finale? Et puis, pourquoi d'autres ne sont pas venus? N'ont-ils pas trouvé l'envie, la force de répondre à l'invitation? L'Église devrait être une image du royaume des cieux. Elle devrait être un lieu où chacun est invité à venir faire la fête. Chaque dimanche. Un peu comme dans le banquet de cette parabole. Eh bien, un petit peu comme dans ce banquet, des mains, pas des petites mains, j'aime pas cette expression, des petites mains, des mains, et surtout de grands cœurs, ont préparé cette fête. Le ménage dans la semaine a été fait, et l'entretien des extérieurs aussi. Le café. Et quelqu'un est venu un peu plus tôt. Et les fleurs qui sont là. Et le repas qui est prêt. En fait, tout est prêt pour la fête. Et si l'Église veut refléter quelque chose du royaume des cieux, ici-bas, elle doit, chaque dimanche, revêtir des habits de fête. Et inviter tout le monde. Les églises gagneraient aujourd'hui à renouer avec la vocation festive. Et puis peut-être à laisser derrière les vieux restes d'austérité protestante, on dit ça des protestants. Ou bien les convenances religieuses, identitaires du passé. Nous avons tous des valises pleines de ces choses-là. Mais je voudrais vous laisser trois indications qui me semblent être contenues dans cette parabole à propos de la vocation de l'Église, de notre rassemblement. La première chose, la toute première chose essentielle, c'est que l'Église est une image du royaume des cieux, oui, en ce qu'elle doit adresser à tous l'invitation. À venir. Le royaume des cieux, c'est comme un roi qui invite. Quand on prend le texte original, c'est un roi qui appelle. Un roi qui appelle. Cela paraît évident, mais à bien y réfléchir, inviter, c'est pas si facile que ça à faire. Inviter, appeler. Une invitation, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas sous pression qu'on invite quelqu'un. Ce n'est pas une contrainte, et encore moins une menace. Moi, je me souviens, on raconte un peu sa vie ce matin, c'était là. C'est ça. Quand j'étais tout jeune, enfin jeune homme, je me souviens d'un évangéliste qui m'avait terrorisé. m'avait fait peur en prêchant le doigt levé que si je me faisais écraser par un camion en sortant de cette réunion sans avoir donné ma vie à Jésus le Christ, j'irais droit en enfer. Je ne m'étais pas converti ce jour-là, hein, je peux vous dire. J'étais parti en courant. Vous parlez d'une invitation. Inviter, ce n'est pas menacer. Inviter, ce n'est pas faire chanter. Enfin, je ne veux pas, c'est pas... Ce n'est pas faire pression. Voilà. L'invitation, la véritable invitation, présuppose que l'invité est libre de refuser l'invitation. L'évangile que nous annonçons ce matin dans ce lieu de culte est intimement lié à la liberté d'entrer. Nombreux sont celles et ceux qui découvrent l'existence de notre lieu de culte par notre site web, merci à Raphaël, hein, qui le tient à jour. Et presque chaque dimanche, nous saluons des nouvelles personnes. Ils entrent, ils s'assoient, ils prient ou font silence avec ceux qui sont là. Ils reprennent ensuite leur route à la poursuite de leur vie ou à la poursuite de l'église idéale, hein, ça j'en sais rien. Ou au contraire, ils reviennent le dimanche suivant et posent un moment leur valise pour faire route avec nous. Notre église est premièrement un lieu public, ouvert à tous, et non pas un cercle privé, réservé aux initiés, aux seuls confessants. Ici, on entre comme dans un moulin. Et c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, le conseil de l'Église travaille actuellement au renouvellement de notre signalisation dans la rue, qui tombe en ruine, et plus largement de notre communication. Une communication qui laisse entendre qu'au bout de l'impasse, il y a la vie et la liberté. C'est pas facile à dire, hein, ça, qu'au bout de l'impasse, il y a la liberté. Mais c'est pourtant ce qu'on veut dire de nous. Ici, on est libre d'entrer et on est libre de sortir. C'est ce qui distingue l'Église de la secte. La secte, elle culpabilise ceux qui ne viennent pas. Elle les harcèle, les menace à coups de versets bibliques, souvent. La liberté réside dans la possibilité de dire non, pas aujourd'hui. Et ça, c'est pas le plus facile, et de ne pas s'en sentir coupable. Et à ce sujet, je crois que on ne fera pas trop peser lourdement sur nos adolescents cette obligation d'aller au culte. La connaissance de Dieu, la culture biblique, ça se transmet, ça, oui. Mais la foi, jamais, ça ne se transmet pas. La foi, ça se découvre, ça se rencontre. C'est l'affaire de Dieu et de soi. Une étude sociologique d'un auteur catholique qui s'est intitulée « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » fait apparaître que la pratique religieuse s'est complètement effondrée à partir du moment, à partir des années 60 en fait, hein, de 1960, à partir du moment où la messe et le culte n'ont plus été obligatoires. À part les communistes, dans les villages, tout le monde va à la messe à une certaine époque. Hein. Et bien, dès que la liberté est venue et il y a eu un effondrement de la pratique. C'est là, en fait, c'est là toute la fragilité de l'Église. Mais en même temps, cette fragilité est toute sa force. Parce que ce matin, vous êtes là, par liberté, par choix. Vous êtes là, par désir. Et aussi, et peut-être surtout, parce que vous êtes les invités du Seigneur. Et cette rencontre, ce rassemblement, c'est essentiellement une fête. Alors c'est vrai que dans nos milieux un peu église libre, c'est un peu une fête intériorisée, on n'est pas très excité en faisant la fête. Ça fait rien, on la fait quand même. Notre église ne vit que de la grâce. Moi, la culture du marketing, de l'entreprise, la culture du projet d'église, qui s'impose d'ailleurs peu à peu hein, dans les milieux évangéliques notamment, à mon sens, elle outrepasse les limites de la vocation de l'Église. Celle d'inviter sans arrière-pensée, dans la liberté, dans la gratuité, en laissant les commandes à Christ seul. C'est tout. Et voilà le deuxième aspect essentiel de cette parabole. Nous sommes invités, oui, à une fête, à un mariage. Je l'ai évoqué tout à l'heure, l'Église donne-t-elle cette image d'un rassemblement de gens heureux ? Alors, être heureux, c'est pas afficher un sourire hein, comme ça, béat, c'est pas ça, l'image de gens heureux. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, je crois. Mais qu'est-ce qui frappe l'attention de nos amis visiteurs de passage ? Il y en a ce matin. Est-ce quelque chose dans l'air qui signifie qu'il y a ici de la communion fraternelle ? Est-ce la proximité, la joie simple ? Est-ce le sentiment de la bénédiction qui est transmise autant par la parole que par les sourires ? Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou bien est-ce le sérieux, la loi ? La rigueur doctrinale, la pureté. Je n'ai rien contre ces choses, j'arrive même pas à le dire. Ces choses-là. Mais qu'est-ce qui frappe le regard des visiteurs de passage ? L'exigence ou la liberté ? Est-ce, j'aimerais que ce soit le cas, hein, est-ce la liberté, la légèreté de celles et ceux qui marchent ensemble dans la foi ? Une foi sautillante, où l'entraide, la foi et l'amitié font les règles de la vie commune. Fait-il bon vivre chez nous, pour les petits, pour les enfants, pour les jeunes, pour les étudiants, pour les anciens ? Sommes-nous heureux de faire église ensemble ? Quand je regarde cette assemblée ce matin, faite de femmes et d'hommes venus des quatre coins du monde, de toute origine, ecclésiale aussi, ou sans origine ecclésiale, vous êtes les bienvenus. Je suis très ému, très reconnaissant à Dieu. Il y a du bonheur à vous regarder. On aurait pu en rester là. La salle de noces pleine de monde, comme ce matin, presque pleine. Pleine de mauvais et de bons, hein, qui ont répondu à l'invitation du Seigneur et qui font la fête ensemble. Bien, Jésus aurait pu se contenter de s'arrêter là, moi j'aurais préféré. Voilà le royaume des cieux. Eh ben non, la parabole rebondit. Et ce rebondissement fait tourner cette belle histoire de noces au vinaigre. Les paroles de Jésus sont rarement des histoires gentillettes qui finissent bien. Tenez par exemple, de mémoire, vous avez en tête la parabole du fils prodigue. C'est super cette histoire, le papa qui retrouve son petit à la fin, on s'embrasse, on fait la fête. Il fallait que le fils aîné la ramène pour gâcher le happy end et les retrouvailles et le festin. L'évangile, c'est comme ça. C'est surprenant, c'est dérangeant, c'est déroutant. Dans le récit, d'ailleurs parallèle de Luc, à notre récit, les invités font la fête et puis on en reste à peu près là. Vous voyez ? Chez Matthieu, une nouvelle question est posée, une question qui vient casser l'ambiance. Que se passe-t-il une fois que nous sommes entrés aux noces? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est bien installé à notre place au milieu de la fête? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question qui est posée. Et la tentation serait de se dire « Non, ben, l'essentiel, c'est que j'ai saisi le carton d'invitation, la bénédiction du roi, l'important, c'est que je sois dedans, que je ne sois pas dehors, voilà, c'est fait, c'est coché, fin de l'histoire. » On se sent bien à l'abri, bien au chaud, à l'intérieur du royaume de Dieu, et de là, de là-haut, on regarde avec un air un peu condescendant ceux d'en bas, ceux du dehors. Et on se dit qu'on n'aimerait pas être à leur place. Hein. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Est-ce ce sentiment-là qui animait cet ami aux vêtements inappropriés? Se croit-il arrivé? Il ferait alors de l'Église ce qu'elle ne devrait jamais être. Un cercle pour initier, un lieu réservé à ceux qui ont le carton d'invitation. Un club fermé. Celui qui a accepté sans rencontrer, par exemple. Vous savez, les biblistes ont pioché le terrain de cette parabole, hein. On a cherché à identifier ce malheureux garçon qui est venu à un mariage habillé comme pour un enterrement. La Bible de Jérusalem, la Bible catholique, qui par ailleurs a un texte remarquable et des commentaires souvent très inspirés, à mon avis s'est un peu plantée là, parce qu'elle y a vu le type, écoutez bien, le type de l'homme chez qui les œuvres n'auraient pas accompagné la foi. Mais cette explication, elle porte atteinte. Une atteinte grave à la totale gratuité du royaume prêché par Jésus. Où, il est bien précisé au verset 10, méchants et bons se trouvent rassemblés. L'invitation n'est donc pas adressée qu'aux bons, à ceux qui auraient atteint un degré acceptable de sainteté, de morale chrétienne. Non, elle est adressée. L'invitation aux invités, à tous. Mais alors, de qui cet ami, puisque c'est quand même ainsi que le nomme le roi, de qui cet ami qui fait tache au tableau nuptial est-il le nom? Il pourrait être la figure de celui qui est entré, mais qui ne veut pas croire à la noce. Celui qui est là, mais qui se refuse à la joie, à la vie libérée des forces de mort. Celui qui a accepté, mais qui n'est pas rencontré. N'est-il pas celui qui, malgré sa proximité apparente avec le peuple des invités, refuse de s'abandonner totalement à la joie du salut? C'est une hypothèse, c'est une interprétation, bien sûr, possible. Vous pourrez y ajouter les vôtres et méditer cela. Mais il n'en demeure pas moins que cette expulsion des noces est choquante. Toutes les interprétations du monde n'empêcheront pas ce sentiment d'indignation et d'inquiétude. La parabole nous laisse sur un sentiment profond d'insécurité, non? Et si nous sommes des gens honnêtes, ce dont je ne doute pas, nous nous posons tous ce matin intérieurement la question, et si cet homme, c'était moi? La parabole ne donne aucune explication satisfaisante sur la présence de cet homme mal habillé. Il aurait pu répondre au roi plein de choses. Moi, je sais que j'aurais essayé d'argumenter. j'avais pas les sous, j'avais pas le sou pour m'acheter un costume. Ou bien j'ai pas eu le temps de me changer. Vous voyez ce que le texte dit ? Cet homme resta la bouche fermée. Pas un mot. La parabole décide de laisser finalement chacun sur ce silence. Silence qui doit demeurer pour chacun de nous source d'inconfort et de malaise. Sœurs et frères, il n'y a pas de réponse à l'éviction de cet homme aux habits inappropriés. Nous allons devoir continuer la marche avec ce que j'aime appeler, pour ceux qui me connaissent, le caillou dans la chaussure. Jésus nous transmet, oui, trois messages. Un, nous sommes tous les invités du roi, du Seigneur, invités à une vie libre. C'est le message de la grâce. Deux, notre vie chrétienne doit être vécue comme une fête. La joie est la marque essentielle du chrétien. Trois, nous sommes appelés à recevoir cette invitation, non pas comme une fin, comme un aboutissement, mais comme une aventure à vivre. Et à vivre en sachant que nous serons bousculés en chemin. Il y aura des questions sans réponse. Il y aura des situations incompréhensibles et révoltantes. Il y aura des inquiétudes. Il y aura une vie en permanence appelée à se convertir, à changer encore et encore de vêtements. Cela veut dire que celles et ceux qui choisissent de rejoindre cette église protestante de Pessac acceptent aussi d'être bousculés, d'être questionnés, dérangés, provoqués par la parole de Dieu. Certitude du salut, oui. Joie, oui. Et inconfort. Voilà à quoi nous invite cette parabole. Et on trouve ça dans d'autres passages de la Bible. J'aime bien ce psaume 85 qui dit que amour et vérité se rassemblent, se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent, c'est la même idée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour véritable sans que soit exprimée, des fois dans la souffrance, dans la douleur, la lumière de la vérité. Et Ésaïe nous a invités il y a quelque temps, au tout début de notre arrivée ici, et nous a invités à élargir l'espace de notre tente. Je cite, « Qu'on déploie des toiles, qu'on allonge les cordages, qu'on affermisse les piquets. » Ésaïe ajoute ça, « Parce qu'il va y avoir du monde. » Il va y avoir du monde. Prévient Ésaïe 54, verset 2. Il va venir du monde. Dans un lieu où l'évangile est annoncé et vécu dans la joie, dans l'amitié, dans le questionnement aussi. Un lieu où il fait bon vivre, ensemble, mais sans qu'il soit besoin de se mentir les uns aux autres et se dire les choses quand elles ne vont pas bien, par exemple. Hein ? Une église où l'on embrasse ensemble la vocation que Christ nous adresse, où la joie du salut et l'inconfort de la vérité font route ensemble. Comme tu as dit, Stella, ce matin. Amen.